Dans les six premiers chapitres du livre de Josué, nous avons une description de l'œuvre merveilleuse que Dieu a fait parmi son peuple quand ils sont entrés dans la terre promise. Vous savez, vous connaissez l'histoire, Israël avait été libéré après 400 ans de servitude. Ils avaient erré dans le désert pendant 40 ans. Puis les voilà maintenant à la frontière de Canaan, le pays où coule le lait et le miel, la terre promise depuis des générations. Et ils passent la frontière. Et qu'est-ce qui se passe ? Josué se tourne immédiatement vers les jeunes hommes, les hommes de la jeune génération, et il les met à part pour Dieu. Et la Bible utilise le mot de circoncision. Il les a circoncis. C'est assez particulier des fois des histoires dans la Bible. On voit mal une armée qui va envahir un pays. Une fois avoir posé le pied dans le pays, voilà, et le général dit, écoutez les gars, c'est pas tout, mais voilà. On va faire quick. Et puis, voilà, donc ils se font tous circoncis. Parce que ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Et puis, donc le mot qu'ils utilisaient, c'est « ils ont été circoncis ». Et on peut aussi le traduire par « ils ont été préparés ». Josué chapitre 5. Pourquoi Josué a-t-il fait cela ? Ils ont traversé le Jourdain, ils sont devant Jéricho avec ses murs imprenables. Et dans le naturel, la conquête de cette ville est quasi impossible pour les Israélites. Dieu leur dit « je vous ai béni, tellement béni de richesses incroyables ces dernières années, rappelez-vous. Mais ce n'est pas fini ». Alors comment ils se sont préparés à cette bataille ? Ils n'ont pas aiguisé leurs épées, ils n'ont pas fait briller leurs armures, ils n'ont pas... Voilà, leur préparation a été celle du cœur. Puis Dieu leur a ordonné, on connaît cette histoire, on apprend à l'école du dimanche, Dieu leur a fait tourner autour de la ville, en chantant ses louanges, en priant, en s'attendant à lui. Et puis finalement, après un souffle de trompette, là, les murailles, ces murailles, puissantes murailles s'écroulent. Et Josué et ses hommes ont accompli... de grands exploits, ils ont vaincu leurs ennemis, gagné de bons territoires, de spacieux territoires, ils ont vu des victoires comme jamais auparavant. En fait, Josué a fait quelque chose que Moïse n'a jamais fait, il a vaincu 31 rois, 10 fois plus que Moïse. Et je crois que c'est une image de ce que Dieu veut faire dans nos vies, une multiplication par 10, une multiplication de sa grâce. Vous avez vécu des belles choses avec Dieu jusqu'à présent, merveilleux. On se réjouit de ce que Dieu a fait. J'espère que vous avez des témoignages qui datent plus que d'il y a 30 ans. Mais Dieu a fait des belles choses dans votre vie. C'est bon de s'en souvenir de temps à autre. Mais ce n'est pas tout. Dieu veut multiplier sa grâce dans vos vies. Il veut que non seulement vous puissiez les vivre en abondance, mais qu'elles puissent se multiplier autour de vous. Un peu comme que ça soit contagieux. Et... Dieu va répandre son esprit de manière étonnante. Il veut que nous croyions qu'il peut faire cela, qu'il va faire cela. Il y a un brin de folie dans la foi. Il veut que tu deviennes un petit peu foufou dans ta foi. Un petit peu, hors série, d'accord ? On est tellement parfois, tellement cadré dans notre vie chrétienne. Voilà, c'est bien, il y a une bonne discipline, mais c'est bien d'avoir un petit brin de folie de temps en temps. Et puis de sortir du cadre et de croire que Dieu va faire des choses étonnantes. Des choses qui sortent de l'ordinaire, faire des miracles extraordinaires. Amen. Alors, j'aimerais lire avec vous quelques versets dans Josué chapitre 3, quelques jours avant cet événement de la circoncision des soldats d'Israël. Josué 3, au verset 1er. S'étant levé de bon matin, Josué partit de Sittim avec tous les Israélites. Ils arrivèrent au Jourdain et passèrent la nuit là, avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez les prêtres, les lévites, porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, vous partirez de l'endroit où vous êtes et vous la suivrez. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 1 kilomètre. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. Jésus dit au peuple, consacrez-vous, car demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. Puis Josué dit aux prêtres, portez l'arche de l'Alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'Alliance et marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je vais commencer à te rendre grand aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux prêtres qui portent l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord de l'eau du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux Israélites, approchez-vous. Et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, voici comment vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hittites, les Éviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens, les Jébusiens. Je me suis entraîné. L'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Amen. Consacrez-vous, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel accomplira des merveilles, des prodiges au milieu de vous. Et c'est la parole que j'ai reçue du Seigneur pour vous, pour nous, ce matin. Et je vous avoue que j'étais bien emprunté, je ne savais pas trop quoi en faire, et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, écoute, je ne connais pas ou très peu ces frères et sœurs, peut-être quelques-uns me connaissent, mais voilà, laisse-moi leur donner un message passe-partout, un truc qui a bien marché ailleurs, et puis voilà, l'affaire est belle, voilà, je vais les encourager, ça ira bien, et ça revenait continuellement, non ? Alors voilà, j'obéis, consacrez-vous, car demain, l'Éternel accomplira des prodiges au milieu de vous. Je me réjouis pour vous. Je me réjouis. Israël fait face à l'un de ses plus grands défis. D'un côté, ils ont la promesse merveilleuse, la plus extraordinaire qui soit, une vision de conquête. On ne peut pas rêver mieux. Enfin, la parole de Dieu va s'accomplir. On y est, enfin. Et de l'autre, devant eux, une barrière naturelle, infranchissable. Le verset 15 dit que le Jourdain débordait de ses rives à cette époque de l'année. Donc les peuplades de Canaan avaient de quoi se sentir en sécurité face à Israël, au moins jusqu'à la saison sèche. Que faire ? Dieu leur dit, vous allez suivre l'arche de l'Alliance, portée par les sacrificateurs, elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. Le problème, c'est un problème, avec les choses nouvelles que Dieu veut faire, parce que ce qu'on est habitué, c'est une chose, hein, on sait comment ça fonctionne, voilà, on n'est pas trop perturbé. Puis quand Dieu décide de faire des choses nouvelles dans ta vie ou au travers de ta vie, c'est assez perturbant. Le problème avec ces choses nouvelles, c'est tout simplement, c'est qu'elles sont nouvelles. Et tu ne peux pas t'appuyer sur « voilà, on a fait comme ça, ça va marcher ». En tout cas, cette génération-là ne pouvait pas le dire. Leur père aurait pu le dire, voilà, c'est pas compliqué, Moïse il avait pris le bâton, là, et tout s'était ouvert devant eux. Là, Moïse n'était plus là, les parents n'étaient plus là, nouvelle génération, nouvelle situation. Ah. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes, parce que tu es obligé de dépendre de Dieu. Et c'est une position qui est juste tellement bonne. Tellement bonne. Seigneur, je ne sais plus quoi faire. Seigneur, je ne sais pas quoi dire. Seigneur, je ne sais plus où j'en suis. Seigneur, je suis démuni. Et c'est là que le miracle de Dieu peut se manifester. Tant que tu sais comment il faut faire, il y a peu de chances qu'il y ait quelque chose de miraculeux qui se produise. Alors, comment se préparer pour un voyage, une expédition en pleine terre inconnue, sans savoir ce qui va se passer? Alors oui, 40 ans de cela, 12 de leurs chefs étaient partis en espionnage, mais il n'en restait plus que deux, et plutôt sur la fin que sur le début de leur vie. Et les deux derniers qui avaient été envoyés n'avaient pu que confirmer ce qui leur avait été dit. Voilà, ce ne serait pas une partie de plaisir. Quelques hommes forts auraient pu traverser le fleuve, mais tout un peuple, avec femmes, enfants, les personnes âgées. Le moins qu'on puisse dire était que, si nouveau et inconnu que pouvait être ce chemin, il était difficile. Et beaucoup d'entre nous font face à des choses aussi difficiles, à des chemins difficiles, à des défis insurmontables, besoin d'une direction divine, besoin de connaître la prochaine étape, de savoir ce que Dieu veut, besoin d'un travail ou de quoi, au moins de quoi faire vivre votre famille. Ou alors c'est peut-être encore plus compliqué, vous faites face à la maladie, vous faites face à une situation de famille qui se désagrège, vous êtes confronté à des finances qui sont juste impossibles, pesantes. Il y a rarement de réponse facile. C'est juste un chemin difficile devant nous. Alors que faire dans telles circonstances? Ce que Dieu veut que tu saches, c'est qu'il est à l'œuvre. Juste ça. Jésus a dit, mon Père travaille aujourd'hui et moi aussi. Il y a un verset qui revient dans ma vie comme un refrain Il se retrouve dans Ecclésiaste, chapitre 7, verset 10. Il dit, sois attentif, observe, regarde ce que Dieu fait. Moi, je l'entends en portugais, parce que j'ai appris le portugais, puis on a travaillé au Cap-Vert, puis après avec les églises portugaises en Suisse. Atenta para a obra de Deus. C'est bon, ça fait mieux qu'en français, quand même. Atenta para a obra de Deus. Voilà, il y a plus d'onction, j'ai l'impression. Mais une chose est sûre, Dieu est à l'œuvre. Dieu agit. Que tu le vois ou que tu ne le vois pas encore, Dieu est à l'œuvre. Et ce qu'il demande de chacun de nous, c'est de nous préparer, de nous mettre à part, de nous consacrer, de nous sanctifier, pas pour être meilleur, pas pour avoir une vie plus agréable, pas simplement pour avoir moins de problèmes dans l'existence, parce que c'est exactement ce qui va se passer quand même. Lorsque tu te débarrasses du péché dans ta vie, lorsque tu te débarrasses des compromis dans ton cœur, lorsque tu fais place nette par rapport à tout ton passé, c'est vrai que la vie devient quand même beaucoup plus agréable à vivre. Mais ce n'est pas pour ça. Consacre-toi, parce que Dieu va agir. Dieu va agir. Dieu a décidé de se manifester dans ta vie et au travers de ta vie. Il t'a choisi pour manifester sa gloire, sa puissance, sa majesté, sa grandeur, son amour. C'est pour cela que nous nous sanctifions, par amour pour lui et par amour pour ce qu'il accomplit. Il fait tout à merveille. Les œuvres de l'Éternel, j'ai lu ça ce matin dans ma lecture quotidienne, les œuvres de l'Éternel sont grandes, elles sont recherchées par ceux qui les aiment. Est-ce que tu aimes l'œuvre du Seigneur? Je ne parle pas de l'Église et de son programme. Pardon, pasteur. Je parle de l'œuvre du Seigneur, qui se manifeste aussi dans l'Église, au travers de l'Église, mais qui dépasse de loin ce cadre-là. Je te demande de te préparer, consacrez-vous, car l'Éternel accomplira des prodiges au milieu de vous. Dieu va opérer des miracles. Le miraculeux n'est pas une exception pour Dieu, ça fait partie de sa nature. Et pendant que je pensais à vous, j'avais un chant qui me revenait, c'est qui dit, qui est comme toi Seigneur, Seigneur parmi les dieux, qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. La sainteté de Dieu et sa puissance. Israël avait vécu des miracles extraordinaires. En Égypte, déjà, il y a peu d'entre nous qui ont vécu ce qu'ils ont vécu en Égypte, il faut bien le reconnaître. Même si vous avez été sauvés miraculeusement, vous êtes convertis au travers d'un miracle, d'une intervention de Dieu, il faut bien reconnaître que la série de miracles qu'ils ont vécu en Égypte, c'était du lourd. Hein. Et puis, ils ont vécu des miracles dans le désert. Il y avait l'eau qui sortait du rocher, simplement en tapant sur le rocher, paf, c'est sorti ça. Et puis le rocher les suivait, comme un truc complètement barge. Et puis ils avaient l'écaille. Je ne me rappelle plus combien c'est, un mètre. Un mètre de caille sur une superficie, mais énorme. Et puis la manne tous les jours. Miracle quotidien. Un miracle par jour. Puis encore, ça c'est pas mal, ça m'aurait intéressé, ça, parce que je marche beaucoup. Leurs souliers ne se sont pas usés pendant les 40 ans. Les mêmes pompes pendant 40 ans. Vous imaginez, c'est tellement difficile de jeter les vieilles pompes. Pendant 40 ans, Seigneur, merci. Je les ai faites, celles-là. Leurs habits ne se sont pas usés. Puis Dieu leur dit, consacrez-vous. Je vais faire des miracles, des prodiges. C'est pas fini. Et Dieu veut pas seulement révéler sa puissance à son peuple, mais aussi sa sainteté. Et c'est aussi ce qu'il veut faire dans ta vie. Il y a une révélation de Dieu qui va être donnée, qui va être accordée dans ton cœur, qui dépasse ce que tu as connu jusqu'à ce jour. Le Seigneur va se faire connaître à toi dans une lumière plus grande que tout ce que tu as connu jusqu'à présent. Mais ça passe par une préparation du cœur. Et la Bible est remplie d'hommes, d'exemples, d'hommes et de femmes qui sont passés par cette préparation, car Dieu allait faire quelque chose de spécial. Dans Exode chapitre 19, il est dit, l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, consacre-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, sous les yeux de tout le peuple, l'Éternel descendra sur le mont Sinaï. Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il consacra le peuple, il lavait leurs vêtements, et il dit au peuple, soyez prêts dans trois jours. Dieu allait leur donner la révélation des 10 commandements. Aucun peuple sur terre n'avait vécu ça. Préparez-vous, soyez prêts. Juste avant la venue du Messie, Ésaïe 40 dit que toute vallée sera comblée, toute montagne, toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé, les endroits rocailleux aplanis. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Dieu a alors suscité Jean-Baptiste pour accomplir ses paroles d'Ésaïe 40. Il prêche en disant « Préparez le chemin pour le Seigneur !» Préparez. Il devait y avoir une préparation des cœurs avant que le ministère de Jésus soit manifesté dans toute sa beauté sur la terre. Et Jean-Baptiste est venu préparer le chemin. Et l'évangile de Luc nous rapporte les choses spécifiques qu'il devait faire pour se préparer. Jésus lui-même a jeûné, a prié pendant 40 jours dans le désert pour se préparer à la mission qui lui avait été confiée par le Père. Avant de quitter la terre, Jésus dit à ses disciples de se préparer. Ce qu'ils ont fait en passant plusieurs jours dans la chambre haute, dans la prière, dans la recherche de la présence de Dieu, jusqu'à ce qu'ils soient remplis du Saint-Esprit pour l'œuvre à laquelle Dieu les avait appelés. Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 21, « Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, saint, utile à son maître, prêt pour toute œuvre bonne. » Paul dit à Timothée que s'il voulait être un homme de Dieu, un homme que Dieu utiliserait vraiment d'une manière spéciale, il devait se purifier de ces choses. Il parle entre autres des passions de la jeunesse, des polémiques, des discussions inutiles, des conflits. Et cette préparation, cette consécration personnelle est indispensable pour l'œuvre que Dieu va accomplir. C'est clair, si tu ne te prépares pas, tu verras sûrement ces choses arriver. Mais tu n'auras pas autant de joie, autant de bonheur à les vivre. Et tu seras peut-être un petit peu en marge, un peu pas comme les joueurs qui sont sur le banc, mais presque ça. Hein, c'est sympa de voir l'équipe gagner, mais c'est encore mieux si on peut marquer des buts, non? Dieu demande à son peuple de se préparer à ce qu'il va faire, et cela est valable tant au niveau individuel qu'au niveau d'une assemblée. Je suis convaincu que Dieu a de bonnes choses pour vous, des merveilles, des prodiges, si vous pouviez les voir. Et pour cela, il y a cet appel qui retentit comme une trompette. Consacrez-vous, car demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. J'ai fait un petit peu de compétition cycliste quand j'étais jeune, ça se voit moins aujourd'hui, mais et pour ceux qui l'ont fait, la compétition, la volonté de gagner n'est pas aussi importante que la volonté de se préparer à gagner. Une chose, hein, ouais, tout le monde voulait gagner le Tour de France, quoi, je dirais. Mais de là à se préparer, avoir la volonté de se préparer pour gagner les courses, c'est autre chose. Nous devons nous préparer pour la victoire. Cela implique de s'exercer, de s'entraîner, de persévérer dans une discipline régulière pendant un certain temps, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années peut-être, avec un objectif clair, être prêt pour la victoire. Et c'est souvent le manque de préparation qui, au dernier moment, paf, va faire défaut. Et puis c'est ce qui manquait, c'est le petit truc qui manquait pour que la personne puisse remporter la victoire. L'autre était mieux préparé. On peut tous désirer gagner, mais si nous ne nous préparons pas, il y a des risques que nous passions à côté de la victoire. Ça n'arrive pas par hasard, les victoires des sportifs, c'est jamais par hasard. Il y a besoin d'une préparation. Je me rappelle à l'instant d'un frère, ouais, un serviteur du Seigneur, un petit peu hors norme. Un jour, on devait se voir, puis je l'appelle, je dis « Écoute, Arnold, on doit se voir. » Il dit « Ah oui, c'est vrai, heureusement que tu me le rappelles, un instant. » J'habille mon cœur. Puis là, ça m'a laissé. Puis après, il a raccroché. Puis j'ai dit, waouh. Moi, j'étais là, j'étais prêt pour le rendez-vous, mais voilà, j'avais préparé là. Et lui, il a habillé son cœur. Préparé son cœur. Ça ne se fait pas par hasard, sans préparation. Il y a une préparation physique pour un sportif, mais il y a aussi le mental, la préparation intérieure. Si nous négligeons la lecture de la parole de Dieu, sa méditation, la prière, si nous ne mettons pas tout notre cœur pour Jésus, alors nous risquons fort de nous disqualifier nous-mêmes, de voir les choses nous passer devant, puis mince. Dieu va accomplir des merveilles dans ta vie tous les jours, dans l'Église. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu veux t'y préparer? Les parents m'ont raconté l'histoire qui les avait bouleversés, qui, moi, que j'ai entendu aussi, ça m'a longtemps suivi. Ça se passait en Normandie, dans leur église, l'église de Pentecôte en Normandie. Et puis, il y avait une petite fille qui avait les pieds déformés. Je ne sais pas comment on appelle ça. Les pieds, voilà, elle ne pouvait pas mettre des chaussures normales. Il y a toujours des chaussures spéciales qu'il fallait faire. Et puis, le samedi, elle est avec sa maman au marché et elle voit des jolies petites chaussures rouges. Maman, maman, achète-moi ces chaussures. Maman, maman. La maman, mais non, tu sais très bien que tu ne peux pas mettre ces chaussures-là, il faut des chaussures spéciales. Maman, voilà. Elle a cassé les pieds à sa mère. Puis la mère, comme beaucoup de mamans, voilà, on craque. Hein. Et puis, elle a acheté des petites chaussures à sa fille, mais avec en même temps une profonde tristesse dans son cœur, sachant qu'elle ne pourrait jamais les mettre. Et puis, le dimanche, la petite fille est venue au culte, et puis, au moment de la prière, le pasteur a proposé la prière à la fin de la réunion, les gens s'avançaient, et la petite fille s'est avancée, avec ses chaussures rouges à la main. Puis le pasteur lui dit, mais c'est quoi ces chaussures-là, ma chérie ? Tu vas prier pour moi, Jésus va me guérir, et je pourrai les mettre. Pas la peine de vous dire que le pasteur n'avait même pas eu le temps de prier, il a commencé à pleurer. Et la petite fille a été guérie par le Seigneur. Attends-toi au miracle du Seigneur. Prépare ton cœur. Prépare-toi, Dieu va agir. Prépare les choses en attendant que vraiment Dieu se manifeste. Il y a cette anticipation du cœur. Préparez-vous, consacrez-vous, mettez-vous à pas. Le mot qui est utilisé, c'est un mot qui vient de l'hébreu kadosh, qui veut dire être saint, mis à part. C'est le même mot que les anges qui adorent et servent Dieu jour et nuit disent kadosh, 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 saint, saint, saint est le Seigneur. C'est le même mot. Et Dieu dit dans le Lévitique, l'Éternel ton Dieu te dit, vous vous consacrerez, vous serez saints. Pourquoi ? Parce que je suis saint. Vous êtes à moi, je veux que vous me ressembliez. Je veux que vous soyez comme moi. Je veux vous mettre à part. Vous êtes différents. Vous n'avez pas besoin d'être comme ce monde. Vous êtes différents. Je vous aime et je veux votre cœur 100% pour moi. L'apôtre Paul reprend cette parole afin qu'on comprenne que c'est aussi le commandement de Dieu pour nous en tant que chrétiens. C'est le même mot. Nous consacrer afin de ressembler davantage au Seigneur Jésus. Se préparer en devenant saint, car Dieu va accomplir des merveilles au milieu de nous. Le peuple d'Israël savait très bien de quoi il en retournait. Jésus n'avait pas eu besoin d'entrer dans les détails. Ils avaient tout ce qu'il fallait comme explication dans le Lévitique. Les prêtres étaient là pour leur expliquer. Enfin, voilà. Mais c'est pareil pour nous aujourd'hui. Si nous voulons nous consacrer devant Dieu, nous préparer à ce qu'il veut accomplir pour nous, nous devons accepter que Saint-Esprit nous enseigne et que cela touche tous les domaines de notre existence. Tous les domaines de notre existence. Et que rien ne vienne contaminer notre relation avec Jésus. C'est tellement facile que ça arrive. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Préparez le chemin du Seigneur. En disant cela, Jésus dit encore, approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Vous voulez savoir ce que Dieu veut changer dans votre cœur, dans votre vie ? Vous voulez savoir qu'est-ce qui doit changer dans votre cœur ? Pensez à ce que Dieu, vous ne voulez pas que Dieu vous dise. Hein ? Qu'est-ce que vous n'aimeriez pas qu'un prophète pointe du doigt dans votre vie ? C'est ça que Dieu veut changer. Vous avez peut-être peur maintenant. Il y a quelqu'un ici qui... On rappelle d'un pasteur qui disait « J'ai une bonne connexion avec le Seigneur, vous savez. » Il peut me montrer tout ce qui se passe dans votre cœur. Tout le monde était comme ça. Et c'est exactement ça que Dieu veut changer dans votre cœur. Écoutez, approchez-vous, écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Dieu veut parler dans ta vie, il veut mettre de l'ordre peut-être. Des fois des choses insignifiantes qui paraissent anodines, mais dont Dieu veut nous débarrasser pour avoir plus de champ libre dans notre cœur. Et c'est pas, on ne sera pas meilleur que les autres, vous comprenez bien. On sera juste disponible entre les mains du Seigneur. Et ça, c'est à vous de le faire. Personne ne pourra pardonner à votre place. Personne ne pourra vous rendre plus fidèle. Personne ne pourra non plus vous arrêter d'être différent à la maison qu'à l'église. C'est à vous de le faire, ce genre de transformation. Et puis, il y a un moment donné, on parlait de ça encore avec mon frère Jean-Marc hier, on dit, voilà, il y a ce que toi, tu peux faire, ce que tu dois faire. Les choses que tu dois abandonner, ce n'est pas les autres qui l'abandonneront à ta place. ça ne se fera pas tout seul. Tu dois le faire. Mais à un moment donné, c'est clair, tu vas réaliser que j'y arrive plus. Je ne sais plus comment faire, Seigneur. Alors, il y a cette parole que j'aimerais te laisser pour finir. Abstenez-vous de toute forme de mal. Ok, Seigneur, j'ai compris. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une totale sainteté. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle. C'est aussi lui qui le fera. C'est aussi lui qui le fera. Celui qui vous appelle est fidèle. Mais pour cela, il nous faut répondre à son appel. Et l'appel, ce matin, c'est consacrez-vous. Car demain, l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. Jésus veut manifester sa présence, son règne, son autorité, son amour au milieu de vous, non seulement ici, dans vos familles. Seigneur Jésus, merci.